Nous avons à voir encore différents points. Nous allons parler un peu de la puissance et du miracle. Et puis, nous aurons un paragraphe assez important, très important même, que j'ai intitulé « Être pour faire ». Être pour faire, et nous verrons aussi la permanence des œuvres bonnes, ce qui est un caractère attaché à ces œuvres, parce que je le rappelle, les bonnes œuvres ou les œuvres bonnes qui sont le témoignage de la foi, qui sont pratiquées par des chrétiens dirigés, guidés par l'Esprit de Dieu, eh bien, ces œuvres sont entièrement des œuvres divines. Donc, il n'y a pas d'œuvre de conception humaine. S'il y a des œuvres de pure conception humaine, même avec générosité, conçues avec générosité, ces œuvres-là ne prennent pas place dans les œuvres bonnes. Et le Seigneur, généralement, ne les bénit pas. Parce que Dieu veut être, lui, l'inspirateur, il veut être l'origine de toutes les bonnes œuvres. Il ne faut pas oublier qu'à la clé de tout cela, il y a sa souveraineté, la souveraineté de Dieu. Et puis, il n'y a que Dieu, être parfait, souverain, Père, qui peut concevoir les œuvres. C'est lui qui a conçu la création. Il n'y a que lui qui puisse les concevoir. Et c'est toujours chez l'homme une prétention que de vouloir concevoir lui-même des œuvres. C'est très important cela. Il faut que nous soyons dans l'attente des directions de Dieu, des inspirations pour agir et faire de bonnes œuvres. Mais Dieu inspire ces bonnes œuvres, il les inspire au cœur des chrétiens. On ne peut pas fournir un catalogue des bonnes œuvres. L'Écriture ne le fait pas. Elle nous donne des indications. Je vous ai montré d'ailleurs que dans le chapitre 11 des Hébreux, les œuvres n'avaient aucun caractère social. Elles peuvent avoir des répercussions sociales, mais elles n'ont pas le caractère décisif d'œuvre sociale. Et que ces œuvres, au contraire, concourent toutes à l'avancement du règne de Dieu. On ne peut pas donc avoir de catalogue, mais on peut avoir des exemples. Et des exemples, j'en aurai bien quelques-uns, mais le mieux, c'est d'en prendre là où nous les trouvons tout près de nous, et de voir déjà ce qui peut être fait maintenant en tant qu'œuvre bonne. Et justement, notre frère M. Erard est engagé dans une certaine œuvre de visite des prisons. Eh bien, je vais lui demander alors de nous en parler un peu, de nous dire comment cela est venu et le fruit que ces œuvres portent.
Eh bien, l'apôtre Paul nous dit dans son épître aux Éphésiens, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Voilà donc ce qui nous réjouit profondément, car c'est en totale et absolue confirmation de ce que nous a dit notre frère que je vous parlerai de cette œuvre dans laquelle le Seigneur, le Saint-Esprit, nous a conduits. Car je crois en effet que nous avons à être conduits, comme notre frère l'a rappelé encore il y a quelques instants. Nous devons être conduits dans ces œuvres qui ont été préparées à l'avance et nous n'avons pas à les élaborer. Je pourrais presque dire que nous n'avons même pas d'initiative à prendre. Les œuvres sont préparées par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et il nous suffit d'y entrer au bon moment, bien sûr, et quand le Seigneur nous le montre. C'est ainsi que nous avons été conduits, nous avons été amenés par le Seigneur, qui a utilisé, bien entendu, des circonstances pour nous occuper de gens qui sont incarcérés, qui sont donc dans la prison au Havre. Et je crois que c'est vrai, notre frère l'a dit aussi, dans toutes les œuvres. Et il a fait allusion à ce home évangélique de Brest. Ce n'est pas que je veuille faire de la publicité pour notre frère M. Pelletier, qui en est le responsable, mais je le connais, et je connais aussi cette œuvre. Et je crois que si notre frère nous a dit qu'il avait une bonne impression de cette œuvre, eh bien c'est aussi parce que c'est le Seigneur qui a dirigé les choses dans ce domaine. Et ce n'est pas notre frère, M. Pelletier, qui a eu l'intention, l'initiative de faire ceci ou de cela, mais le Seigneur lui a montré et l'a guidé dans cette œuvre, et il n'a plus qu'à suivre s'il a voulu faire la volonté de Dieu. Et cela, c'est vrai. Nous n'avons plus qu'à suivre, à donner suite à ce que le Seigneur montre, à ce qu'il nous a préparé pour nous personnellement ou pour une assemblée. Nous avons eu l'occasion de parler de Jonas, et c'est par un grand poisson, un poisson dangereux, un monstre marin, que le Seigneur s'est manifesté. Et ce monstre marin, c'est une chose mauvaise en elle-même, n'est-ce pas? Ce grand poisson, ce grand requin-là, qui de son naturel fait tant de mal et est un grand danger dans les régions qu'il habite, eh bien c'est par ce monstre que le Seigneur est venu pour conduire les circonstances avec Jonas. Et c'est au travers d'escrocs que le Seigneur nous a guidés. J'ai deux reprises, eu affaire à des escrocs. Et c'est par eux que le Seigneur a ouvert la voie. Je laisserai l'un de ces escrocs de côté. Ça ne nous intéresse pas ce qu'il a été pour le Seigneur à mon égard. Mais le second, c'est par lui que le Seigneur nous a introduit dans ce travail de visite des prisons. C'était un escroc qui se présentait comme pasteur, se présentait comme étudiant en théologie, enfin il a essayé d'estorquer de l'argent, et ayant été amené à le rencontrer, le Seigneur m'a permis de discerner que c'était un escroc. Il a fallu un certain temps pour cela, une quinzaine de minutes, 20 minutes, pour se rendre compte que c'était un escroc, car il s'y prenait très bien, bien sûr, il était expert. Mais au bout de quelques minutes, je priais le Seigneur de m'éclairer quand même, si c'était un vrai ou un faux frère, un faux pasteur ou un vrai pasteur. Et le Seigneur m'a convaincu par diverses choses, au bout d'un moment, que c'était un escroc. Alors, à partir du moment où j'étais convaincu que c'était un escroc, nous nous trouvions dans un dispensaire religieux tenu par des religieuses catholiques. Et elle avait eu la gentillesse de nous laisser tous les deux là dans un petit salon où elle avait servi le café à cet homme. Et quand j'étais convaincu que c'était l'escroc, je suis allé la trouver. Je dis, soyez bien aimable de prévenir le commissariat de venir chercher un homme avec leur véhicule là pour mettre fin à toutes ces mauvaises actions. Alors, quelques minutes plus tard, il y avait là la voiture de police avec deux agents de police, et ce qu'il n'avait pas voulu faire avec moi, c'est-à-dire me montrer, ouvrir une mallette qu'il avait, me montrer ses papiers, devant la force publique, il a dû le faire, et là, on a découvert que dans sa mallette, il y avait des faux billets, il y avait un tas de choses. Voilà. Alors, les deux agents l'ont donc embarqué, mais quand il l'emmenait, je lui ai dit, je viendrai vous voir. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de le voir quand il était en prison, J'ai essayé de voir d'abord au commissariat central où il avait été retenu une journée ou deux, une journée et une nuit, et ensuite j'ai fait les démarches pour lui rendre visite. Je l'ai vu, c'était donc le premier que je visitais en prison. Voilà comment les choses se sont passées. Et là, en prison, il m'a raconté qu'il n'était pas pasteur, bien sûr, il m'a raconté, semble-t-il, la vérité, et il m'a dit cependant qu'il avait eu contact avec des églises, et qu'il avait un peu lu le Nouveau Testament, etc., etc. Enfin, je suis allé le voir un certain temps, pendant deux ou trois mois, et eh bien, j'étais bien sûr satisfait de ses visites, parce qu'il s'intéressait beaucoup à la parole de Dieu, il s'intéressait à l'Évangile, il parlait, discutait très bien. Mais je le rencontrais dans un petit isoloir, il y avait là tout un... Je le rencontrais au même titre que les familles peuvent rencontrer les membres de leur famille qui sont en prison, c'est-à-dire dans un petit isoloir où il y a 6, 7, 8 personnes, là, ils sont ensemble et ils sont sur des tabourets, et en face d'eux, il y a le prisonnier, et il y a toute une séparation, là, de... non pas en verre, mais en plastique troué, là, comme dans les bureaux d'administration, et on parle entre eux, ce plastique qui est là. Et bien sûr, c'était bien, mais il me dit, vous savez, ici, là, j'ai rencontré, j'ai parlé avec ceux qui sont là avec moi, ou près de moi, il y a plusieurs là qui aimeraient qu'on leur parle du Seigneur, qui aimeraient avoir l'Évangile. Alors je me suis dit, bon, eh bien, c'est très bien de rencontrer ce seul homme, car je ne pouvais voir que lui, n'est-ce pas? Il y a des permis de visite, mais pour une seule personne. Alors il me fallait entrer plus loin, et entrer à l'intérieur de la prison même, et j'ai dit, bon, eh bien, je vais voir ce qu'il y a à faire pour pouvoir entrer. Je me suis informé, je me suis documenté, et on m'a dit que seuls les protestants et les catholiques étaient reconnus au titre d'aumôniers. Il y a des aumôniers, des aumôneries catholiques et protestantes. Eux ont un droit permanent d'entrer dans les maisons d'arrêt, mais en ce qui nous concerne, eh bien, on n'a pas de droit comme eux, on n'a pas d'aumônerie, et il me fallait demander une carte de visiteur de prison à l'administration pénitentiaire, donc, dont la direction est à Lille. Alors j'ai fait donc toutes les démarches, et puis c'est passé par le juge d'application des peines, il y a eu toute une enquête qui a été faite sur mon compte pour savoir si je pouvais entrer dans la prison comme ça, si ce n'était pas un danger public, ou si je ne passerais pas des armes, que sais-je. Et quand toute l'enquête a été terminée, la direction départementale m'a dit que c'était d'accord, j'étais autorisé, ils m'ont envoyé une carte de visiteur, ce qui me permettait d'entrer à tout moment dans la prison, et qui me permettait de voir, de rencontrer les prisonniers comme leurs avocats. C'est-à-dire dans un parloir, mais dans une petite pièce où il n'y a pas de surveillance, où les gardiens ne viennent pas, nous sommes absolument tranquilles. Alors, c'est ainsi que les choses ont commencé. J'ai commencé à voir donc ce premier garçon, et il est sorti, après j'en ai vu un deuxième, un troisième, et puis les contacts se sont multipliés comme cela, à l'intérieur, et bien sûr, j'ai toujours essayé d'introduire le plus grand nombre de Nouveaux Testaments, le plus grand nombre de Bibles, des Nouveaux Testaments d'abord, et des Bibles à la demande des garçons, parce que j'estimais que il était préférable qu'ils aient d'abord et seulement le Nouveau Testament, plutôt que la Bible, car par le Nouveau Testament, ils ne risquaient pas de buter sur les difficultés de l'Ancien Testament, et ils pouvaient rencontrer Jésus comme leur sauveur personnel, ce qui, bien sûr, serait l'amorce d'une vie nouvelle et d'une recherche plus tard de la vérité de Dieu dans l'Ancien Testament. Alors j'ai introduit le plus grand nombre de Nouveaux Testaments, j'ai introduit des livres chrétiens tels que la croix et le poignard en grand nombre, rescapés de la drogue, du ghetto à la vie, enfin tous ces livres que nous connaissons et qui nous parlent de l'expérience de ce Nicky Cruz, qui bien sûr était, comme vous le savez, parmi tous ces jeunes délinquants que le Seigneur a sauvés. Alors nous avons bien sûr... Nous avons eu des déceptions, c'est évident, il y a des déceptions, il y a des échecs. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des déceptions, des échecs, qu'il faut renoncer à une tâche. Et le Seigneur, en face de tous ces échecs, ces déceptions de Jean, notre frère faisait allusion à cela, pour les clochards, n'est-ce pas, qui ne cherchaient que l'intérêt, qui ne cherchaient que le profit. Là encore, on trouve une masse de gens qui ne cherchent que l'intérêt, et ils cherchent à manipuler celui qui vient vers eux pour essayer d'en tirer profit, ou bien essayer qu'il aille visiter la famille, qu'il se débrouille pour ceci ou cela, pour des démarches ou toutes sortes de choses. Ils cherchent à tirer profit, ils cherchent l'intérêt par ce contact, n'est-ce pas? Ils sont complètement isolés, il y en a qui ont la visite de leur famille, d'autres n'ont pas du tout de visite. Alors évidemment, si ça peut être quelqu'un qui travaille dans leur intérêt, c'est tout ce qu'ils voient. Alors bien sûr, c'est là qu'on enregistre un certain nombre de déceptions, mais on se rend compte de ces gens qui ont un intérêt réel pour le Seigneur, pour la foi, pour la parole de Dieu, et ceux qui n'en ont pas. Et dans le fond, le tri se fait très vite. Quand je vois quelqu'un pour la première fois, je ne lui parle pas de la pluie du beau temps, c'est évidemment sur le terrain de la foi, et c'est de Jésus que je lui parle, et je me rends compte tout de suite si ça l'intéresse ou pas. Alors je le visite plusieurs fois par prévenance, par gentillesse, je ne vais pas le laisser tomber parce que je l'ai vu une seule fois, il ne s'est pas intéressé à la foi, ce ne serait pas non plus convenable. Mais je le vois deux, trois fois, quatre fois, et puis après c'est terminé, je le laisse, je le reverrai peut-être plus tard, mais je le laisse réfléchir à ce qu'il a entendu, et puis on verra plus tard, mais je ne vais pas aller à l'encontre de son intérêt, et qui ne se porte pas dans la direction de Dieu, qui ne se porte pas dans la direction de la foi. Alors ce sont les déceptions que nous avons, mais à côté de cela, nous avons des joies merveilleuses, que Dieu soit loué. Nous avons des joies profondes, et nous avons, entre autres, rencontré un homme qui était en prison au Havre pour une tentative d'assassinat et qui devait être traduit devant la cour d'assises de Rouen et qui donc est parti plus tard vers Rouen où maintenant il a été jugé et il purge donc sa peine. Mais lorsque nous l'avons eu au Havre et que c'était absolument un païen qui ne connaissait rien de Jésus, il était catholique, oui, comme beaucoup de catholiques, mais sans connaissance, et cet homme a pris plaisir à la parole de Dieu. Et il s'est passé vraiment dans son cœur, où bien sûr, les progrès, n'est-ce pas, sont lents, et il y a aussi toute une rééducation qui doit se faire, mais nous avons vu, j'ai vu, l'œuvre de Dieu dans le cœur de cet homme. Et il a été transféré à Rouen, il a continué de m'écrire. Et j'ai vu au travers les lettres qu'il m'écrit encore que le Seigneur fait son œuvre dans son cœur. Il a pris d'abord le Nouveau Testament et ensuite il a voulu avoir la Bible. Et il est suivi par un autre frère qui visite les prisonniers à Rouen et nous sommes en contact et il me dit qu'effectivement il y a là une œuvre qui se fait dans son cœur. Il va prochainement être mis en liberté conditionnelle. Et je pense qu'il reviendra au Havre et que nous pourrons là vraiment l'entourer et essayer de le garder là un peu sous nos ailes et voir que ses progrès soient réels, n'est-ce pas? Le conduire toujours plus loin, il faut du temps, c'est vrai, ça ne se fait pas en un jour, mais nos expériences à tous ne se sont pas faites en un jour non plus. Et souvent le Seigneur me reprend. Quand je souhaiterais que ce soit très rapide, le Seigneur me fait toujours repenser à mon expérience et il me dit « Vois combien d'années tu as été, toi, pour comprendre. Alors pense aux autres et comprends-les aussi. » Et puis tout récemment, nous avons là eu contact avec deux jeunes drogués. Un était drogué, n'est-ce pas, et il avait fait un certain nombre de choses, je ne sais pas exactement ce qu'il avait fait. En tout cas, il avait été condamné pour ce qu'il avait fait, mais que Dieu soit loué. Le Seigneur fait une œuvre grande, merveilleuse. Il vient à la réunion de prière, il vient à toutes nos réunions, et vraiment, il y a une œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Nous avons aussi l'occasion de voir un autre jeune qui a été condamné, qui a fait des hold-up et toutes sortes de choses, qui a été condamné plusieurs fois pour usage de stupéfiants, trafic de stupéfiants même, C'était un garçon qui est connu de toute la ville, d'autant que son père travaille dans les services de police. Alors évidemment, n'est-ce pas, c'est la cible. Et ce garçon aussi a fait une merveilleuse expérience avec le Seigneur. Plusieurs encore sont très, très sceptiques et se demandent si ça va durer, si ça va tenir. Mais j'ai à deux reprises eu l'occasion de visiter ses parents et sa mère m'a dit, monsieur, je suis étonné, il n'a jamais été comme ça. Dans toutes ses lettres auparavant, ça fait déjà plusieurs années qu'il est en prison, il était toujours tellement révolté, tellement en colère, tellement irrité, révolté, épris de vengeance. Et là, il est vraiment, je ne le reconnais pas. Je dis, madame, il vous étonnera encore. Et oui, et c'est vraiment merveilleux de voir ce garçon. Et alors, bien sûr, il devait passer là en jugement il y a peu de temps, à la fin du mois dernier. Et je lui ai expliqué que bien sûr, il fallait qu'il paie sa dette, il fallait qu'il soit condamné. C'était tout à fait normal qu'il soit puni pour ses fautes et qu'il devait reconnaître devant Dieu toute la réalité du mal qu'il avait fait, de son péché, de toutes ses erreurs. Il fallait qu'il soit droit devant Dieu pour que Dieu le pardonne. Mais je lui ai aussi dit que le Seigneur était maître des cœurs et des esprits et que même les cours des tribunaux étaient dans les mains de Dieu. Alors je lui ai dit, il faut que tu croies que la clémence peut agir là, que si tu demandes au Seigneur d'être avec toi dans cette séance du tribunal correctionnel, Dieu peut être avec toi et te montrer qu'il ne t'abandonne pas. Et le Seigneur a été merveilleux parce que le procureur général, procureur de la République, réclamait 6 à 7 ans d'emprisonnement et il a été condamné à 20 mois. 20 mois à la surprise générale. Tout le monde a été infiniment surpris quand je suis revenu pour le visiter à la maison d'arrêt quelques jours plus tard. Le sous-directeur m'a dit, monsieur le pasteur, vous pouvez dire à X qu'il a bien de la chance de s'en tirer avec 20 mois. Parce que jamais, jamais, on ne pensait qu'il aurait si peu. C'était plusieurs années, la preuve, c'est que le procureur avait demandé 6-7 ans. Alors vraiment, on se demande, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, voilà l'œuvre de Dieu, voyez-vous, chers amis. Le Seigneur nous encourage merveilleusement. Et je crois, je ne sais pas ce que l'avenir sera fait, le Seigneur le sait, mais il y a, c'est vrai, un travail extraordinaire à faire dans ce milieu de cette jeunesse dépravée qui se drogue, et en particulier avec ce Lionel-là. Il m'a à plusieurs reprises dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour tous ces jeunes? Ils commencent à 11, 12 ans. Il commence à 11, 12 ans, 13 ans, c'est là qu'il commence à se droguer. Et il y a plein de campagnes qui sont faites contre la drogue, toutes sortes de mesures qui sont prises, mais ça s'intensifie de plus en plus. Tout se fait en cachette, et ça prend de plus en plus, et ça commence par des jeunes garçons. Mais il faudrait leur dire, qu'il me dit, il faudrait leur dire. N'est-ce pas, il est animé de ce désir d'aller vers ses anciens camarades, et pour leur annoncer la grâce de Dieu et pour leur dire comment lui, il est heureux maintenant quand il lit la parole de Dieu et quand il réalise qu'il connaît Jésus d'une manière qu'il n'avait jamais supposée. Alors il y a quelque chose à faire, comme nous avons eu l'occasion de parler il y a quelques jours là, avec un frère ou une sœur, il y a quelque chose à faire, mais il faut absolument faire l'œuvre de Dieu. Il faut absolument faire ce que le Seigneur a préparé. Et je ne sais pas, peut-être le Seigneur prévoit-il un foyer plus tard, un centre intermédiaire entre ce monde de péché et l'Église? Évidemment, il y a là quelquefois un pas qui est difficile à franchir entre ces jeunes garçons qui rencontrent le Seigneur, mais qui ne peuvent pas être sanctifiés à tous égards du jour au lendemain. C'est impossible, ça. N'est-ce pas? C'est l'œuvre de Dieu, là encore. Ce jeune Lionel a lu l'épître de Pierre qui nous dit de fuir la corruption qui existe dans le monde. Et il m'a dit, ben voilà, c'est ce que j'ai cherché moi. Je l'ai cherché par la drogue. Ah oui, c'est vrai. Il a vu qu'il y avait une corruption dans le monde et le diable, bien sûr, qui est là, cherchant à entraîner les hommes dans le péché et dans une autre voie semblable à celle du monde, mais en illusionnant les hommes, conduit tous ces jeunes qui sont vraiment n'est-ce pas, qui sont déçus, qui sont là complètement découragés, écœurés de la société, eh bien, ils essaient de fuir cette corruption qui est dans le monde par la drogue. Ils pensent que c'est le paradis et tout ça, bien sûr, mais là, il y a aussi des hauts, des bas, des chutes, des angoisses, des détresses, et tout ça parce que ce n'est pas la voie. Alors, je lui dis, bien sûr, je te comprends, mais le Seigneur, lui, nous propose une voie merveilleuse, une voie de bonheur, une voie de certitude, et qui n'est pas une voie illusoire, comme le diable en propose aux hommes. Alors, je pense qu'il y a, c'est vrai, entre ce monde, n'est-ce pas, de jeunes qui sont là ensemble, qui sont dans le péché, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui sont liés, qui sont dans cet engrenage du péché, de la drogue, et tout ce qui est là, et l'Église, il y a certainement quelque chose d'intermédiaire, mais il faut que ce soit le Seigneur qui dirige ces choses, et ce que nous voulons, ce que je veux et ce que l'Église souhaite, c'est que nous soyons là attentifs et à la disposition du Seigneur pour faire ce qu'il a préparé encore, n'est-ce pas, et pour entrer dans cette œuvre-là. Voilà ce que je peux dire.
Vous n'irez pas, parce qu'il y a des prisons de femmes aussi, et il peut y avoir aussi des visiteuses de prison, mais vous n'allez pas tous, en rentrant chez vous, courir à la justice, à l'administration pénitentiaire pour demander à être visiteur. Ce que je veux dire, c'est que une œuvre de Dieu ne se fait pas en imitation de quelque chose que l'on apprend. Nous avons là un exemple. Cette œuvre-là, Dieu peut la susciter ailleurs. Hein? Il l'avait d'ailleurs fait. Il ne faut pas oublier, par exemple, que monsieur le professeur André Lamorte a été longtemps visiteur. Lui, il était aumônier, puisqu'il était pasteur de l'Église réformée. Lui, il était carrément aumônier. Dans la grande maison d'arrêt d'Aix, où il y avait des grands criminels, il a là eu l'occasion, évidemment, de voir s'opérer des conversions. Je me rappelle, il y en a une d'ailleurs qui a fait l'objet d'un petit traité imprimé. C'était un homme qui avait tué deux personnes et qui s'est converti dans la prison, donc, et sa peine a pu être ramenée à 8 ans, et quand il est sorti de prison, sa famille était corse. Il est allé en Corse et il est allé revoir tous les gens qu'il avait volés, même les familles où il avait causé des deuils, et il est venu demander pardon. Voyez-vous, n'est-ce pas, comme il y a eu là vraiment les fruits de la repentance. C'est remarquable. Eh bien, vous savez, il fallait vraiment que Dieu l'ait animé d'un grand courage. Et ce pardon, d'ailleurs, lui a été accordé pleinement. Donc, Dieu avait mis sa main aussi, là, n'est-ce pas ? Et puis, quand cela a été fait, il est resté lié avec Monsieur Lamorte, qui l'a instruit, et il est devenu évangéliste. Et il a d'abord été témoin. Il est devenu évangéliste, un peu comme Nicky Cruz, parce que Nicky Cruz aussi, tout le monde n'est pas resté vivant sur son chemin. Alors, il a été lui aussi évangéliste, je ne sais pas ce qu'il est devenu après, mais enfin tout ça, c'est déjà ancien. Donc, vous voyez que Dieu s'est déjà servi de cela, et il peut s'en servir encore. Et on ne peut pas dire que l'œuvre doit être absolument réservée à un pasteur. Je pense que c'est bien votre avis, n'est-ce pas ?
Le frère de Rouen n'est pas pasteur.
Oui.
Mon collègue de Rouen n'est pas pasteur, c'est le frère Noël Boinet. Eh bien, il n'est pas pasteur, lui. Il est membre de l'église de Rouen, et il a eu à cœur d'être visiteur de prison depuis 8 ou 10 ans. Ça fait que 3 ans, je sais.
Donc, il y a cette fonction de visiteur de prison, et ça suffit, il n'a pas besoin d'être aumônier, dans le fond. Hein. Visiteur de prison, c'est très bien. Alors donc, vous voyez, c'est pas réservé à un pasteur. Ça intéresse l'Église. Et je le répète, il y a des femmes qui peuvent elle aussi, être visiteuse pour des prisons de femmes. Voyons la puissance dans les œuvres et par les œuvres. Alors, nous allons pour cela revenir un peu à Jésus, qui a, lui, beaucoup parlé de ses œuvres. C'est une chose à remarquer. Le Seigneur n'a pas mentionné seulement son action de prophète. Vous savez que Jésus remplit trois offices, ben je vous le rappelle, il est souverain sacrificateur, il est roi et il est prophète, les trois offices du Seigneur Jésus. Bon, il n'a pas seulement mis en évidence sa fonction, son office de prophète, mais il a beaucoup parlé de ses œuvres. Alors, nous allons revoir ça très rapidement dans l'évangile de Jean, d'abord au chapitre 4 et au verset 34. Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Pourquoi dit-il ici « ma nourriture » Ça peut évidemment nous étonner un petit peu quant au sens, mais c'est parce que, tout simplement, les disciples reviennent de la ville avec des vivres, l'heure du repas est déjà passée, et bien entendu, tout le monde a faim, eux, ils ont faim, les douze, bien faim, puis ils trouvent le Seigneur Jésus en train de parler dans un entretien avec la Samaritaine, et puis alors ils se disent entre eux, vivement que ce soit fini, qu'on puisse manger, n'est-ce pas? Et alors, comme ils voient, en somme, que ça se prolonge un petit peu, et ils viennent dire au Seigneur, ils viennent le presser de manger. Rabbi, Rabbi, mange. Ils disaient ça au Seigneur parce qu'ils voulaient eux manger, bien sûr, n'est-ce pas? Rabbi, mange, ce qui voulait dire, toi, nous avons faim, on peut pas manger sans toi, mais on a bien faim. Et alors, c'est là que Jésus dit ma nourriture, c'est-à-dire qu'il se sert de la circonstance et de ce que les apôtres, eux, ont en vue. Ils sont actuellement axés juste sur la nourriture. Alors il dit, moi, je suis axé sur une autre nourriture, et ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voyez donc que Jésus se présente comme celui qui vient accomplir les œuvres de Dieu. Au chapitre 5 et au verset 36, « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. » Ici, Jésus en appelle au témoignage de ses œuvres, parce que ses œuvres, ce sont celles que le Père lui a donné d'accomplir. C'est il faut qu'il en soit de même pour nous, n'est-ce pas? Nous l'avons encore souligné maintenant, mais il faut que ce soit de même dans l'Église. Rappelons-nous bien ce principe que l'Église, en somme, continue l'œuvre de Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ faisait uniquement les œuvres que le Père lui donne d'accomplir, il en est ainsi pour nous. Par conséquent, c'est bien ça. L'apôtre Paul avait bien compris son inspiration, si je puis dire, en nous disant dans les Éphésiens que nous avions été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance. Alors, vous voyez qu'il les met en lumière, là encore, les œuvres que je fais. Et il parle bien, donc, de faire. Au chapitre 8 et au verset 39, ils lui répondirent. Alors, ce sont les Juifs qui paraissaient avoir cru en lui, mais c'était une foi qui était encore très insuffisante. Alors, ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Là, nous voyons apparaître un principe, c'est que quelqu'un fait toujours les œuvres de son père, c'est-à-dire de celui auquel il appartient et de celui qui l'inspire. Et si nous sommes à Satan, nous ferons nous aussi les œuvres de Satan. Nous ne sommes plus à Satan parce que nous sommes chrétiens, mais nous pourrions encore retomber dans les pratiques de l'ancien mode de vie ou dans les suggestions de notre chair, de notre homme naturel, et par l'homme naturel, Satan pourrait revenir et nous faire les œuvres qui lui plaisent à lui. Il a bien fait jouer ce tour-là à Pierre, hein? Pierre qui venait d'avoir une révélation de Dieu, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit cela, qui t'ont appris cela, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et puis alors Pierre, après, de dire à Jésus, qui parle de sa mort et de ses souffrances, à Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan, oh là 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 là. Tu mets en scandale, car tes paroles ne sont pas les paroles de Dieu, mais les paroles de l'homme. C'était des paroles de l'homme, mais à travers ces paroles de l'homme, Satan était entré pour, à travers ce pauvre apôtre Pierre. Alors, il peut, vous voyez, il peut, et l'on a vu d'ailleurs, disons-le carrément, nous ne sommes pas là pour parler à demi, il y a eu dans l'Église tel méfait, telle dissension, telle chose même quelquefois terrible, horrible, et il y en a. Et ça ne peut venir que du diable. Ça ne peut venir que du diable. Alors, ça vient du diable à travers des frères ou des sœurs qui reviennent à leur caractère, à leur homme, vieil homme. Et le diable en profite, bien entendu. Alors, on fait toujours les œuvres de son père. Rappelez-vous ça. Il faut que nous soyons donc bien les fils de notre père, et notre père, c'est Dieu, pour que nous accomplissions ses œuvres. Et puis, chapitre 9, au verset 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. » Toujours la même insistance, les œuvres du Père. Au chapitre 10 et au verset 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Ah. Eh bien, moi, je voudrais voir les chrétiens venir dire ça devant leur église. Si vous me voyez faire quelque chose qui n'est pas vraiment, n'a pas le caractère de l'œuvre de Dieu, alors arrêtez-moi ou ne me croyez pas. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faudrait, n'est-ce pas? Le Christ le disait pour lui-même. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors là, ne me croyez pas. Je ne suis plus un témoin. Je ne suis plus le révélateur de mon Père. Bien sûr, il était certain, n'est-ce pas, de faire les œuvres du Père. Mais il voulait, n'est-ce pas, leur adresser cette sorte de défi. Et puis, 14-10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Donc, le Seigneur Jésus était conscient que les œuvres qu'il faisait, c'était en lui, par sa nature humaine, Dieu vraiment qui les faisait. Je ne sais pas qu'il n'est pas, lui, étranger à la nature de Dieu, puisqu'il est la parole de Dieu. Hein? Mais cette nature humaine qui était là, en somme, livrée à l'expérience, livré à ce combat qui allait être victorieux, livré à l'œuvre de rédemption, cette nature humaine, c'est un champ d'expérience, un champ d'accomplissement. Eh bien, cette nature humaine, elle faisait les œuvres de Dieu, c'est à travers elle que Dieu faisait les œuvres. Et alors, la nature humaine du Seigneur Jésus était soumise à tel point que l'Esprit de Dieu, Dieu ou l'Esprit de Dieu, c'est la même chose, ne se pouvait librement et entièrement se servir de cette nature humaine, de cette, permettez le mot, de cet instrument qu'était la nature humaine de Jésus, pour faire ses œuvres. Et il faudrait que Jésus fasse ses œuvres à travers nous. Mais si nous disons, ah, moi, je veux que ce soit comme ça. Ah, moi, j'ai une idée, voici. D'autres diront, non, ton idée, elle vaut rien. J'en ai une autre. Moi, je veux comme ça. Et on va entrer dans le débat. Je me rappelle une assemblée où ils se sont disputés pendant des jours à propos du sol. Les uns voulaient un parquet en bois, les autres voulaient un ciment, les autres voulaient une moquette, les autres voulaient un carrelage, et ils se disputaient comme ça quand il est arrivé ceci, c'est qu'un homme de Dieu, ayant été informé de la chose, est venu, et puis les a tensés tellement fort, et les a, en somme, humiliés, n'est-ce pas? Et leur a dit, qu'est-ce que c'est ça? Quel spectacle donnez-vous au Seigneur, à votre Seigneur? Alors, mais c'est pour vous dire, n'est-ce pas, si on laisse l'homme apporter son vouloir, ses conceptions à lui, voilà ce que ça donne. Nécessairement, ça va engendrer des disputes, il faut que ce soit l'œuvre de Dieu. Et alors, nous avons dans 14, chapitre 14, les versets 12 à 14. Alors ça nous intéresse. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ah, il s'agit des nôtres. Les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Ces trois versets forment un tout. Forment un tout, il ne faut pas les séparer. Et en somme, il en résulte de ces trois versets, il résulte les trois choses que voici. Premièrement, les œuvres des membres de l'Église, parce qu'ici ce n'est pas adressé à l'Église, à la communauté ou au corps de Christ, mais c'est adressé aux membres. Il y a quand même une nuance à observer. Donc, les œuvres des membres de l'Église sont de même sorte que celles du Seigneur. Et n'essayez pas d'ajouter un quatrième verset qui dirait ceci, bon, à côté de ces œuvres que je fais, alors vous en ferez, vous, peut-être d'autres que vous aurez imaginées ou conçues vous-même. Ça n'existe pas, ce quatrième verset. Donc, premièrement, les œuvres des membres de l'Église sont de même sorte que celles du Seigneur. Deuxième point, ces œuvres peuvent prendre plus d'ampleur encore que celles du Seigneur. Parce que le Seigneur sera retourné au Père, il aura été glorifié et il l'est, et là-haut il est la tête de l'Église, la tête du corps, le chef de l'Église, et il travaille avec ses disciples, ses disciples authentiques, il travaille avec eux, et travaillant avec eux, alors là, il peut donner bien plus encore qu'il ne pouvait donner en disposant simplement de sa seule nature humaine à lui, c'est-à-dire il était, lui, dans les limitations de l'homme, et maintenant il n'est plus dans les limitations de l'homme, il est toujours homme, naturellement, attention, l'homme nouveau. Mais il n'est plus dans les limitations, puisque le Seigneur, c'est l'Esprit, avons rappelé ce matin, et il agit par un grand nombre de natures humaines. Il a les natures humaines des membres de son corps, membres de Christ, c'est-à-dire les chrétiens. Il a ces natures humaines et il peut agir par eux. Il peut agir par une communauté, il peut agir par une multitude. Alors vous ferez des œuvres qui auront bien plus d'ampleur encore que les miennes. Tout cela est vrai. Et troisième point, les œuvres ne peuvent s'opérer que par recours à la prière. Cela, nous l'avons déjà dit, mais notre passage le mentionne bien, par recours à la prière, et les œuvres sont donc des exaucements de prière. Alors, chapitre 15, verset 24 encore, « Si je n'avais pas fait parmi eux, parmi mes contemporains, les juifs contemporains, si je n'avais pas fait des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché, mais maintenant ils les ont vues et ils ont haï, et moi et mon père. » Alors, de ce verset qui concerne la personne du Seigneur, son ministère sur la terre, nous tirons une conséquence, puisque ce sont les œuvres du Seigneur que nous allons faire. Et c'est le Seigneur même qui va faire ses œuvres par nous. Ce sont des œuvres, les œuvres du Seigneur. Alors, si ce sont les œuvres du Seigneur, ce sont des œuvres que nul autre n'a faites, aucun autre homme n'a faites et ne peut faire. Alors, vous pourrez, par exemple, je reprends l'exemple que nous a donné notre frère, vous pourriez envoyer une armée de psychologues ou de psychanalystes ou de psychotechniciens, comme vous voudrez, pas les appeler, envoyer cette armée-là dans les prisons, et puis regarder si ça aura le même résultat. Ça n'aura pas ce résultat. Ça n'aura pas ce résultat. Et je puis vous dire que j'ai quelques éléments d'information sur des résultats de l'action, j'espère qu'il n'y en a pas un seul ici surtout, de psychologues, je crains énormément cela. Je crains beaucoup, beaucoup, beaucoup cela. Bon, enfin, le moment n'est pas d'en parler au fond, il y a d'ailleurs un ouvrage qui vient de sortir, pas longtemps, sur précisément l'action des psychologues et la psychanalyse, et qui en dénonce, laissez-moi les appeler ainsi, les méfaits. Bon, alors, là, n'est-ce pas, il n'y a absolument rien de comparable, rien de possible par le moyen de ces psychologues sur les hommes, les autres hommes. Et je vous dis, j'ai des éléments d'information qui montrent suffisamment non seulement les échecs de cette action des psychologues, mais même les résultats nettement négatifs de leur action. Il y a des gens qui ont été suivis et traités, ou même des groupes qui ont été suivis et traités par des psychologues, et puis qui sont pires qu'ils n'étaient avant. Ça, c'est infiniment grave. Alors, vous voyez une chose, un caractère, là, des œuvres de l'Église, ou des membres de l'Église, c'est que aucun autre, nul autre, ne peut faire, n'a fait, et ne peut faire ces œuvres. Elles ont donc vraiment un caractère divin, et ce sont des œuvres de Dieu, que Dieu fait à travers ses enfants. Les œuvres de Jésus, nous l'avons dit, n'avaient pas de caractère social, pas davantage que les œuvres de cette nuée de témoins dont parle le chapitre 11 des Hébreux, mais elles pouvaient avoir, comme je le disais tout à l'heure, des répercussions sociales. Prenons encore l'exemple de notre frère, eh bien, ces garçons dont il nous a parlé, ce qui est essentiel, important, c'est qu'ils aient connu le Seigneur Jésus, c'est que leur vie est changée. Alors pour eux, c'est un avantage considérable. Mais sur le plan social, quelle récupération, n'est-ce pas? Quelle récupération? Ce n'est pas le but, ça! Ce n'est pas le but recherché, attention, ce n'est pas le but, mais il y a des retombées, comme on dit maintenant, des retombées sociales, des avantages sociaux. Et c'est, s'il y a œuvre sociale, c'est comme ça. À Brest, par exemple, le Home évangélique, eh bien, le but, c'est de sauver des gens, et en sauvant, il y a des retombées sociales. Mais ce n'est pas une œuvre qui veut être sociale et qui dira accidentellement, occasionnellement, on tâchera d'amener des gens à la foi. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas, il faut que ce soit vraiment l'œuvre de Dieu. Et les œuvres du Seigneur étaient toujours des œuvres de puissance et de compassion. L'œuvre puissante n'est pas toujours prodigieuse. Évidemment, quand le Seigneur parlait de ses œuvres, il y avait là, dans ses œuvres, beaucoup d'actes miraculeux, prodigieux. La marche sur les eaux, qui a enseigné bien des choses, les multiplications de pain, par exemple, les résurrections, et puis tous les autres miracles et les guérisons. Il est certain qu'il y avait là beaucoup d'actions prodigieuses, ayant un côté même étonnant, spectaculaire, il y avait ce côté, mais l'œuvre puissante n'est pas toujours nécessairement l'œuvre qui a ce côté spectaculaire ou qui étonne, l'œuvre puissante est l'œuvre qui manifeste la toute puissance de Dieu. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracle, et pourtant, il a eu la puissance d'Élie, mais qui s'est résolue autrement que dans le ministère du prophète Élie. Dans le ministère du prophète Élie, ça a donné, oui, des actes de puissance, et puis dans le ministère de Jean-Baptiste, ça n'en a pas donné, mais il y a eu des actes de puissance, et le Seigneur Jésus nous a dit que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète et que par conséquent son rôle, son action était celle que Dieu lui avait réservée. Alors, les miracles interviennent eux aussi, mais il ne faut pas chercher le miracle, c'est à Dieu de le donner quand il veut. Si nous accomplissons la volonté de Dieu, il y a des moments, plus que d'autres peut-être, où sur notre chemin, nous sèmerons le miracle. Je l'ai vécu, je l'ai connu, puis à d'autres moments, dans d'autres jours peut-être, on n'en verra pas, ou très peu. Et puis alors après, ça peut revenir. Donc c'est Dieu qui fait cela. Quand, par exemple, Pierre allait au temple et que c'était à l'heure du soir et le soleil était assez bas et son ombre était toujours projetée du même côté, son ombre faisait le même chemin que l'apôtre pour aller jusqu'à la porte du temple. Et puis alors c'est là qu'on alignait des malades du côté de l'ombre, et quand l'ombre passait là, les malades étaient guéris, c'était magnifique, n'est-ce pas? Il semait le miracle sur son chemin. Mais oui, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ça n'a pas, n'est-ce pas? Et le miracle, c'est quelque chose que Dieu se réserve, c'est lui qui le fait bien sûr, et il se réserve de le faire avec son opportunité, à lui, selon sa sagesse, à lui, bien sûr. Donc, c'est pas à nous de le chercher. Voilà. Et puis, nous verrons d'autres aspects aussi de l'œuvre de la puissance dans les œuvres de Dieu. Nous aurons l'occasion de le voir à la prochaine de nos réunions sur ce sujet. Nous traiterons alors ce que je vous disais, être pour faire. Être pour faire, et cela c'est important, et nous traiterons aussi la permanence des œuvres. Et je vous montrerai que les œuvres bonnes, les bonnes œuvres, si vous voulez, les bonnes œuvres dont parle l'Écriture, qui sont, nous l'avons vu, les œuvres de Dieu, ont non seulement ce caractère de ne pas pouvoir être imité par le monde, nul être humain, nul homme ne peut les faire, mais nous verrons en plus que ces œuvres ne sont pas, n'ont pas des conséquences limitées dans le temps, et qu'il y a une certaine permanence, je vous le montrerai, une permanence de ces œuvres. Si ce sont des œuvres conçues par l'homme, il n'y aura pas ce caractère. Il y aura une permanence. Quand on fait une œuvre de Dieu, eh bien, une fois faite, cette œuvre de Dieu est encore capable d'agir. Elle est capable d'agir. Et elle va même aller constituer un trésor là-bas. C'est ça le trésor. Les trésors dans le ciel, hein, dont a parlé le Seigneur. C'est ça. Et dans le ciel, elle va être comme le sang d'Abel qui, quoique mort, parle encore. Sang d'Abel, parce que le sang d'Abel, c'était une œuvre magnifique, une œuvre d'obéissance au Seigneur, par la foi. Et alors, cette œuvre parle encore. Et mes amis, c'est tellement vrai qu'un jour, je parlais de Caïn et d'Abel, et je mettais évidemment l'exemple d'Abel en grande évidence, exemple d'une foi qui ne discute pas, qui obéit. Et il est arrivé qu'un monsieur qui avait non pas l'habitude mais la rage de raisonner s'est trouvé touché par cela, et le sang d'Abel là a agi encore pour l'amener au sang de Jésus-Christ. Voyez-vous, n'est-ce pas? C'est magnifique tout ça. C'est beau, c'est grand parce que c'est de Dieu.